quelque chose de très étonnant dans cette période-là, parce que la sœur a pu dire, non, on ne veut pas rester français, européen, on va faire un référendum, on va aller en Allemagne. C'était une majorité donc, qui a décidé ça, et puis donc la SAR a rejoint l'Allemagne. Si vous connaissez, il y a un Sarah dans la salle. L'état d'esprit en SAR est un peu particulier quand on regarde les pays ou les régions allemandes, parce qu'ils parlent toujours de la France au même niveau que de l'Allemagne. C'est-à-dire pour eux, l'Allemagne, c'est de l'autre côté de la frontière régionale et la France aussi. Ils sont toujours restés entre les deux par leur conscience. Et c'est vraiment très particulier parce qu'aujourd'hui, l'espace Sarre-Lorlux est un espace très, très perméable. Et ça a donné lieu vraiment à un pays qui est particulier pour sa proximité avec la France. Je pense qu'il n'y a nulle part ailleurs une conscience d'être franco-allemand et européen qui est plus forte qu'en Sarre. Mais c'est très difficile à expliquer. Oui ?
Il semblait qu'à un moment donné, la Sarre devait devenir le centre de l'Europe. La CE. Il y a eu un événement, et ça je ne sais pas lequel, qui a fait que ça a capoté.
Je me souviens vaguement aussi qu'il y avait,
une volonté. Pas ce qui a provoqué.
Voilà, il y avait une volonté politique comme ça.
Parce qu'au niveau des familles, des terres réciproquement d'un côté ou de l'autre, les familles allaient d'un côté ou de l'autre, au niveau médical c'était pareil, donc si vous voulez il y a toujours eu de l'échange.
Voilà, donc il y avait un noyau comme ça.
Je ne sais pas lequel, malheureusement je ne sais pas.
Il y a un noyau et qui donnait en quelque sorte l'exemple donc qu'on pouvait être en oscillation permanente entre les deux pays, absolument. Voilà, donc c'est ça. 59, je me souviens, c'était pour les Français la fin de la 5e République, l'arrivée de De Gaulle. Pour mes parents, c'était la première visite à Paris. C'était une semaine ou deux à Paris. Et puis, comme il y avait déjà une... légère tendance de la part de ma mère pour la langue française. Quand j'avais 5, 6 ans, 7 ans, tous les samedis, tous les dimanches, tournais sur le tourne-disque un disque avec des chansons de Charles Trenet, Édith Piaf et puis d'autres. Donc j'ai appris le français sans m'en rendre compte que par les chansons françaises. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire, ce que chantait Piaf par exemple. Mais je commençais à connaître les paroles par cœur. Donc ça c'était 59, bon signe donc, dans la population, ça a commencé à rayonner de nouveau Paris, dans la population allemande de l'Ouest, qui pouvait se déplacer. C'était évidemment aussi très concurrencé dans les années 60 par l'Italie, parce que la première destination des voyages dans les années 60, quand ça commençait à aller mieux économiquement et les gens pouvaient de nouveau envisager de se déplacer un petit peu pendant les vacances. Tous les Allemands qui pouvaient se payer les voyages allaient en Italie, soit pour les vacances, soit pour le tourisme, c'est-à-dire découvrir les lieux là-bas. Et puis vous avez, dans cette période-là, je ne sais pas si c'est bien, des chansons comme Les pêcheurs de Capri, Capri Fisher, on peut se souvenir. C'est ça, et puis en France, Capri, c'est fini, c'est un peu plus de Noël, c'est en 64, ça, c'est ça. Et puis il y avait aussi, c'était assez marrant, un produit dans les années 70 qui était venu sur le marché qui s'appelait Capri Zone, le soleil du Capri, c'était un jus d'orange, nectar d'orange. Donc, de nouveau, les frontières devenaient pour les touristes un petit peu plus perméables et on avait de nouveau envie de quitter le pays pour voyager. Il y avait beaucoup moins de Français, évidemment, qui venaient en Allemagne que les Allemands qui venaient en France parce qu'il n'y a pas Paris, il y avait les deux Allemagnes, Il y avait aussi une difficulté linguistique, et puis il y avait toujours ce traumatisme. On a fait un sondage à la fin des années 50 qui disait qu'il n'y avait que 20% des Français qui faisaient confiance aux Allemands. Donc, c'était pas encore le moment où il fallait vraiment proposer, comme tour opérateur, un voyage en car. À Berlin, on ne pouvait pas y aller, donc il fallait un visa, donc il faut aller à Munich ou aller à Cologne. Et puis en plus, bon, c'était pas encore tout à fait reconstruit. Donc c'était plutôt un flux touristique qui allait de l'Allemagne en France. D'où après, évidemment, une affinité pour ce pays qui était grandissant. On avait à ce moment-là la réédition ou la création des premiers manuels français. Moi, je me souviens, à l'école, on avait déjà un manuel qui était illustré. C'était déjà pas mal. Donc, début des années 60, les premiers manuels de français étaient illustrés, noir et blanc, mais on avait des photos toutes les quatre pages. Quand même. C'était déjà pas mal. Après, pour le bac, c'était juste avant 72-70, les deux dernières années, j'ai eu un manuel de français où il n'y avait aucune illustration. Inimaginable aujourd'hui. Donc voilà, pendant ce temps-là, vous allez aussi deviner qui étaient les meilleurs ambassadeurs de la France en Allemagne.
Bordeaux.
Très bon, c'est ça. Accordé. Volontiers. C'était pas la seule. Il y avait d'autres artistes, évidemment. On est dans la bonne direction. On va dans la bonne direction. Vous allez voir, je vais vous donner une piste. Il y avait un mec qui était présentateur de radio, vous allez trouver, à RTL, Radio Luxembourg, et qui faisait une sorte de karaoké, parce qu'il ne savait pas trop bien chanter, mais il prononçait quelques paroles avec une musique. Que vous connaissez tous.
Jean-Noël, Milux.
Le titre, peut-être.
Non.
Ah, mais si je dis une phrase ou deux, Ich bin allein. Ah, voilà, c'est très bien. Voilà, c'est ça. Alors, premier qu'on entend, c'est celui-là. Quand on demande à un Français qui a vécu cette période-là, ça, c'est un réflexe. Camilo. Voilà, c'est ça. Alors, il y en a d'autres. Piaf et Trenet, on avait déjà cité, et même ça, dans les années 50, ça passait très bien. Après, on en prend qui? Moi, mon premier disque, c'était qui? Devinez. Ah, pas mal. Qui a dit Dutronc? Enfin, ouais, c'est ça. Voilà. Parfait. Deuxième, c'était Hervé Villard.
Dutronc.
Vous disiez tout à l'heure.
Oui, c'est fini.
Caprice est fini. Donc, c'était 64. Voilà. Ah, voilà. Très bien. Il y a un connaisseur dans la salle. Françoise Hardy qui chantait Frag den Abendwind en allemand. C'était le pur produit, donc, d'exportation qui rejoignait bien l'image de marque de Bordeaux. C'était de Bardot. C'était la femme française qui était justement considérée comme exemplaire pour sa féminité. Et Françoise Hardy, c'était un petit peu donc, le contrepoint de Brigitte Bardot, beaucoup moins exubérant, beaucoup plus mélancolique. Et cette mélancolie qui va si bien, qui a fait quelque chose, qui interpelle les Allemands quelque part, c'était ça. Mais on n'est pas en complet. Il y avait aussi Gilbert Lecoux, Charles Aznavour, quoi d'autre? Qui d'autre? Georges Moustaki. Ah, ouais, on aurait oublié, c'est ça. Il y avait France Gall, parce que vous avez un événement qui, avec la télé naissante, début des années 60, commence à aussi faire un petit peu rétablir les ponts entre les pays européens. C'était l'Eurovision, donc le comment ça s'appelle déjà? Le Grand Prix Eurovision de la chanson, c'est ça. Donc France Gall, évidemment, Michel Polnareff aussi, qu'on connaissait en Allemagne, et puis d'autres.
Mireille Mathieu,
oui, comment peut-on l'oublier? Oui, Mireille Mathieu, évidemment. Et puis Serge Gainsbourg aussi, C'était un peu plus tard, hein, dans les années 70, donc, fin 60, début 70. Donc voilà pour les ambassadeurs, et ça a commencé à intéresser les Allemands, et aussi à voir un petit peu, et se dessiner comme une langue qui n'est pas si lointaine que ça, et qu'on peut, et qui se prête bien pour chanter, c'est ça. Donc ça, c'est côté des ambassadeurs. Alors les Allemands, ils ont envoyé, c'est un peu plus tard, parce qu'il y a une vague donc de musique allemande qui va arriver avec...
Ah, je ne connais pas, pardon.
Évidemment, donc côté classique, bien sûr, bah, côté musique classique, je pense que c'est universel, parce que c'est déjà bien avant. Voilà, donc là, il y a une fonction de pont aussi, avec les deux qui ne sont pas très loin de la frontière, évidemment. Ça, côté classique, j'en parle pas parce que je pense que c'est continu, c'est quelque chose qui a déjà intéressé les Français tous les temps, hein, depuis Bach, et évidemment, on s'est penché là-dessus pour savoir s'il fallait prononcer Bach ou Bach à la radio et à la télé avec mes étudiants. Alors, qu'est-ce que vous dites ?
Ouais. Bach. Bah oui.
Donc il y a ça, et puis en même temps, dans les à la fin des années 50, vous avez quand même deux mondes sociaux où, par exemple, la position de la femme est très différente. J'ai beaucoup interviewé les femmes, même dans les années 70, et c'est revenu, ça revient tout le temps, c'est cette différence dans l'organisation quotidienne de la vie au jour le jour. C'est-à-dire, par exemple, vous aviez en France, très très tôt, les jardins d'enfants, les écoles qui duraient toute la journée, et donc la femme qui était libre pour exercer un métier, se trouver une profession, qui avait fait aussi plus déjà qu'en Allemagne, éventuellement des études supérieures. En Allemagne, avec le retour des hommes de la guerre, l'image de marque qui avait été construite, véhiculée par le monde nazi et la politique nazie, c'est-à-dire que c'est l'homme qui nourrit la famille et c'est que l'homme qui est responsable de ça, ça a été un petit peu pérennisé jusque dans les années 70-80. Plus, il n'y avait pas l'école de la journée et donc la femme était beaucoup plus à la maison, et quand il y avait la française qui venait en Allemagne, et qui racontait qu'elle menait une activité professionnelle et qu'elle avait deux ou trois enfants qui, pendant la journée, passaient la journée au jardin d'enfants ou à l'école jusqu'à 17, voire 18 heures le soir. La femme allemande qui n'avait pas ça, elle avait envie de faire la même chose, mais elle se rendait bien compte qu'elle était clouée à la maison, et donc elle traitait la femme française de... mauvaise mère, voilà, c'est ça, mauvaise mère, c'était ça, et c'était ça, je l'ai entendu très très souvent quand j'ai accompagné les hommes d'affaires français en Allemagne qui avaient amené leur femme, et ils n'amenaient plus leur femme parce que ça menait à des discussions qui n'étaient pas du tout propices pour le commerce, quand on était invité le soir et quand on se disait, voilà, ça c'est mes conditions de vie, et l'autre commençait aussi à raconter ses conditions de vie. Donc là, il y avait deux organisations qui sont très différentes, et qui sont toujours différentes d'ailleurs, parce que si vous prenez aujourd'hui, on suit ça ici de façon assez près, c'est les jumelages entre les régions, entre la Hesse et l'Aquitaine par exemple. En Hesse, vous avez une initiative qui existe depuis 5-6 ans, c'est de proposer des crédits aux écoles qui veulent installer une école toute la journée et des cantines. Et bon, c'était des crédits au niveau national. Et l'année dernière, la ministre qui est responsable à Berlin, elle a dit, bon, j'ai à peu près dépensé 25% de l'argent qui est disponible, le reste n'a pas été demandé. Donc on a toujours cette... tendance à considérer que c'est le matin que les enfants se trouvent à l'école, et l'après-midi, l'école n'a pas obligation de garder les enfants. Ils peuvent toujours venir pour des activités, périscolaires, mais ils ne peuvent pas, les enfants et les parents ne peuvent pas prétendre être, que l'école s'occupe des enfants l'après-midi, garde les enfants l'après-midi. Donc on a toujours un petit peu cette différence-là. Bien sûr, il y a des écoles qui sont organisées pour avoir, en Allemagne de l'Ouest, pour avoir ça, cette activité toute la journée. Et c'est surtout aussi parce qu'on a intégré, je dis ça comme ça, de façon, je le dis exprès comme ça, on a intégré l'Allemagne de l'Est, où c'était le cas, où il y avait évidemment ce système de, des écoles qui fonctionnaient pendant toute la journée. On aurait pu en profiter, on ne l'a pas fait. Les anciens Allemands de l'Est le regrettent amèrement, mais bon, c'est comme ça. Il y a eu aussi, on a constaté ça depuis les années 60, quand les entreprises ont commencé à travailler plus ensemble, on a trouvé aussi que l'organisation au sein des entreprises était différente, parce que le français fonctionne d'une façon plus hiérarchique, alors que l'entreprise allemande essaye de plus en plus, dans les années 60-70, de donner plus de responsabilités aux collaborateurs. Et c'est quelque chose que constatent beaucoup les chefs d'entreprise quand ils se déplacent ou quand ils décident de s'installer dans l'autre pays. Donc ce sont des habitudes qui ne changent pas beaucoup, qui évoluent un petit peu, et surtout avec évidemment la communication interculturelle, mais c'est un élément dont il faut toujours tenir compte et qui existait bien sûr évidemment déjà au début de la coopération industrielle franco-allemande. Il y en a plein d'autres, vous les connaissez grosso modo, donc les différences entre les Français et les Allemands. Les Français sont très systématiques, c'est-à-dire ils veulent d'abord tout savoir sur un projet avant de prendre des décisions. Mais après, une fois les décisions prises, ça ne change plus et on fait ce qu'on a prévu. Les Français peuvent démarrer avec leur créativité et à gérer le projet sans connaître tous les paramètres, tous les facteurs qui entrent en jeu, quitte à un moment donné, adapter le projet quand ils voient qu'il y a des facteurs qui entrent en jeu, qui l'exigent, ce qui rend l'Allemand parfaitement fou. Irrité, c'est pas possible. On a dit qu'on ferait comme ça, on va faire comme ça. Maintenant, c'est trop tard pour changer quelque chose. Ce qui fait que les Allemands, ils prennent les décisions comment y aller, comment gérer le projet, un peu plus tard que les Français. Mais ils s'y tiennent, les Français, ils ont plutôt tendance à ajuster au moment où ça s'avère nécessaire. Donc, deux choses qui sont toujours valables et qu'on s'en rend compte quand on gère des projets franco-allemands. Si vous avez travaillé avec des journalistes français et allemands, je peux vous dire comment ça marche, c'est très simple. Le journaliste français, il va partir en enquête, et puis vous n'allez pas le revoir de toute la journée. Et le soir, il revient une demi-heure avant le bouclage, et il fait son papier. L'allemand, il a fait son enquête jusqu'à midi. Il revient l'après-midi écrire, il donne un ou deux coups de fil et il finit son papier une demi-heure avant le bouclage. Alors que le français, 10 minutes après le bouclage, il tape son dernier mot. Et là, si vous avez un rédac chef allemand et vous avez les collaborateurs français dans une rédaction mixte, c'est le rédac chef allemand qui est sur les nerfs. Et il faut le calmer, il faut lui dire non, ils vont arriver, c'est pas grave. Vous allez voir, ça va être prêt, peut-être pas à 20h, mais à 20h10, on va beaucoup. C'est comme ça. Et c'est toujours comme ça, et ça a toujours été comme ça. Si vous voulez une explication, elle est peut-être aussi un petit peu dans la formation scolaire, parce que la formation scolaire, quand on y regarde de près, elle est aussi très différente. Vous connaissez celles et ceux qui ont été dans les jumelages. Tiens, les jumelages, on parle un petit peu, connaissent un petit peu les différences aussi de comportement des élèves français et des élèves allemands, un petit peu dû au système, aux différents systèmes qui existent en France et en Allemagne. Donc, en France, c'était plutôt la formation encyclopédique. En Allemagne, c'était débrouille-toi pour trouver toi-même les infos et présente-les à ta façon. Ces deux choses, c'est vraiment quelque chose qui est très, très complémentaire. Et quand on met les groupes français et allemands ensemble, les groupes d'élèves, ils vont se rendre compte assez rapidement qu'ils peuvent très bien apprendre la façon de faire de l'autre pour compléter leur vision. Voilà, on va revenir un petit peu donc, à la fin des années 50. On avait dit qu'on commence à mieux se connaître. Et grâce aux intellectuels, comme par exemple Joseph Rovan ou Alfred Grosser, Alfred Grosser est toujours vivant, qui sont des intellectuels qui fondent par exemple un cercle d'amis franco-allemands qui a donné lieu aussi aux échanges. Et l'échange, l'outil le plus intéressant, c'est l'échange des jeunes. Donc on avait, suite au traité d'amitié franco-allemand en 1963, on avait la création de l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Et on a aussi d'autres